Que le nom du Seigneur soit béni. Jésus-Christ est-il le Seigneur de votre vie? Est-ce que vous pouvez tous dire Amen? Alors vous allez le savoir. Nous allons faire une lecture dans le prophète Osée, au chapitre 8. Osée, chapitre 8, un texte terrible, terrible. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans bien des endroits. Osée, chapitre 8, versets 1 et 2. Osée, chapitre 8. Embouche la trompette. L'ennemi fond comme un aigle sur la maison de l'Éternel. Elle est terrible cette parole. L'ennemi fond comme un aigle sur la maison de l'Éternel parce qu'ils ont violé mon alliance et transgressé ma loi. Ils crieront vers moi, mon Dieu, nous te connaissons, nous Israël. Israël a rejeté le bien. L'ennemi le poursuivra. Nous allons lire dans 1 Corinthiens au chapitre 14, un texte qui nous ramène à ce texte, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 8. 1 Corinthiens 14, verset 8. C'est une question adressée au peuple de Dieu, une question sérieuse, de l'apôtre Paul à l'Église. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Voilà une question qui est adressée à l'Église. Si la parole de Dieu est confuse, si les gens vivent dans la légèreté, dans la frivolité, dans la mondanité, l'Église sera tiède et l'Église ne combattra pas. Car s'il y a bien une chose que les chrétiens doivent tous comprendre, c'est que nous devons combattre le bon combat de la foi. Est-ce que vous en êtes convaincus qu'il y a un combat, vraiment un combat à mener, pas contre la chair et le sang, mais un combat contre les mauvais esprits? Est-ce que vous en êtes conscients, mes frères et sœurs? Est-ce que vous réalisez que l'Église est vraiment en guerre? Et que si l'Église ne combat pas ce combat, elle sera dans la confusion, elle sera tiède, elle sera timide, elle sera confuse. Et les croyants, surtout, ne seront pas prêts lorsque Jésus reviendra. Et c'est ce que nous allons vérifier encore ce soir au travers des textes de la parole de Dieu. Combien de gens ne discernent pas les temps dans lesquels ils se trouvent. Regardez avec moi dans Matthieu, chapitre 16. On va lire deux textes dans Matthieu. C'est quelque chose de terrible, la quantité de chrétiens qui sont dans la confusion. Je peux vous dire que les dernières visites que je viens de faire et aujourd'hui m'ont montré combien des chrétiens sont dans la confusion, mais on ne peut même pas se l'imaginer. Le problème, c'est qu'ils ne lisent pas la Bible. C'est ça que je vérifie de plus en plus. Matthieu chapitre 16. Parce que certains ont lu la Bible une fois, ils ont l'impression qu'ils n'ont plus besoin de la lire. Mais c'est un aveuglement total, ça. Matthieu chapitre 16, verset 1er. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir, vous dites il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Le Seigneur fait un reproche que l'homme est capable de discerner le temps et il n'est pas capable de discerner les signes des temps. Et croyez-moi qu'aujourd'hui, il y a de quoi discerner. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais avec tout ce qui se passe, il y a de quoi discerner. Et c'est pour ça que si l'Église ne combat pas le bon combat, c'est la preuve qu'elle ne discerne pas le temps dans lequel elle se trouve. Un des premiers avertissements de Jésus, Matthieu 24, verset 4. On va faire quelques lectures ce soir. Parce que il faut que nous les fassions, parce que des chrétiens, même dans l'assemblée, ne sont pas prêts. Je peux vous le dire, vous savez, Ève, elle s'est fait séduire, vous le savez, par le serpent. Et Ève, elle avait un environnement parfait. Est-ce que Ève vivait dans un environnement parfait? Est-ce que Ève avait un père alcoolique? Est-ce qu'elle avait des voisins qui faisaient du bruit? Non. Elle ne pouvait pas avoir. Parce que des fois, on justifie notre désobéissance parce qu'il y a eu ceci, parce que l'éducation, parce que cela. Écoutez, Ève, elle s'est fait séduire parce qu'elle n'a pas veillé à ce que Dieu avait dit. Et Jésus nous dit la même chose, Matthieu 24, verset 4. Prenez garde. Jésus le répondit. C'est la première réponse. Prenez garde que personne ne vous séduise. Et c'est ça le problème. Et que Dieu soit béni pour les chrétiens qui veulent savoir, qui veulent véritablement être prêts quand Jésus reviendra. Prenons quelques exemples. Je voudrais qu'on prenne des textes que l'on connaît bien, mais qui vous montrent comment sera l'Église quand Jésus va revenir. Matthieu 7, 21. Je tiens à ce qu'on prenne plusieurs textes, comme on l'a fait dimanche par rapport au sujet de l'homosexualité. Au moins, les choses sont claires. Matthieu chapitre 7. Regardez comment Jésus décrit l'Église quand il reviendra. Parce qu'il parle de ce jour où quand il reviendra. Puisqu'il est dit, verset 21, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là. » Donc c'est le jour, vous êtes d'accord, hein? C'est le jour où on passera devant lui. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Qu'est-ce que nous voyons? Ben, nous voyons d'un côté l'œuvre de Dieu qui se fait, puisqu'on voit d'un côté qu'il y a des prophéties, il y a des miracles, il y a des guérisons, et de notre côté, l'iniquité. Voyez? La confusion dans l'Église, elle est là aujourd'hui parce que les chrétiens n'ont pas séparé ce qui était bon de ce qui était mauvais. Et dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, on doit avoir le courage et l'honnêteté de vivre dans la sainteté. On doit séparer ce qui est bien de ce qui est mauvais. Et dans la fin des temps, on mélangera, l'œuvre de Dieu se fera avec beaucoup de mélange parce que les églises ressembleront beaucoup au monde, on l'a lu dimanche, les gens confondront le bien avec le mal, ils iront même jusqu'à appeler le mal bien et le bien mal. On ne fera pas la différence entre ce qui est saint de ce qui est profane, je vous cite des textes. Le pur de l'impur, le précieux du vil, et le verdict il est terrible, on l'a lu, retirez-vous de moi. Alors que Jésus, tout le temps qu'il était sur la terre, n'a pas arrêté de dire « Venez à moi ». C'est pas vrai ? Venez à moi, le cœur ouvert à tout le monde, le cœur rempli d'amour. Et quand on chantait, là, on a fait une allusion, le voile déchiré, je ne sais plus quoi, non ? Ouais. Je pensais, mais aujourd'hui, mais on n'en veut pas du voile déchiré. Vous vous rendez compte ce que Jésus a fait quand il est mort sur la croix ? Dieu a déchiré le temple pour nous dire « Voilà, moi je veux... » le voile, pardon. Dieu a déchiré le voile dans le temple. C'était pas une preuve d'amour, ça? Franchement, c'est pas une preuve d'amour? Dieu a déchiré le voile pour nous dire, je veux plus qu'il y ait un intermédiaire entre vous et moi. Voilà ce que je veux. Je veux que tous vous puissiez vous approcher de moi. Mais aujourd'hui, le temple, le rideau, on le recoudrait, et plus épais encore. Les gens ne veulent pas de Dieu. Aujourd'hui, les gens diraient, mais refermez-moi ce voile, on n'a pas besoin de Dieu. Et nous sommes dans une société où on ne veut pas de Dieu. Et on l'a lu, prenez garde que personne ne vous séduise. Matthieu 24, 4 et 5, ils séduiront beaucoup de gens. Pourquoi y a-t-il tant de confusion? Parce que les gens sont séduits. Vous regarderez sur un dictionnaire la définition du mot séduire. Je ne sais pas combien il y a d'explications. Mais en fin de compte, c'est qu'il y a des choses, autre chose qui nous plaît. Et les gens arrivent à mettre leur confiance en quelqu'un d'autre qu'en Jésus. Ils sont séduits. Vous savez, beaucoup de chrétiens disent « Non, moi je ne me ferai pas avoir. Moi je ne tomberai pas dans ce piège. » Écoutez, Jésus a dit « Ils séduiront beaucoup de gens. » Et croyez-moi que beaucoup de gens sont séduits, sont dans la confusion. Ils veulent un évangile édulcoré. Une dame me disait encore, j'ai appris, elle a sa deuxième aventure avec un autre homme, avec un autre enfant de plus. Et cette femme me disait, Monsieur Hugo, moi je veux un évangile où on ne parle que du salut. Je ne veux pas venir à Sainte-Agne parce qu'on me remet en question à Sainte-Agne. Je veux un évangile où on ne parle que du salut et que de l'amour de Jésus. Et quand Jésus a dit, vous entendrez, il y en a qui diront, mais c'est moi qui suis le Christ. Les gens, ils croient dans ce Christ-là. cet autre Christ. Ce Christ-là, il séduira beaucoup de gens. Un évangile où tout est permis, je fais ce que je veux, j'aime Dieu, donc je peux faire ce que je veux. C'est ça que les gens veulent aujourd'hui. Ils veulent bien aller à l'église tous les dimanches, mais en vérité, ils veulent faire ce qu'ils ont envie. Je suis chrétien, mais je fais ce que je veux. Je fais ce qui me plaît. Je suis chrétien, mais je suis libre. Moi, je suis permissif. Dieu est amour. Est-ce que Dieu est amour ? Oui. Oui, mais c'est Dieu qui a... que son amour est éternel. Il nous a prouvé son amour. C'est même pas la peine d'en parler ce soir. En mourant sur le bois de la croix, Jésus nous a montré l'amour de Dieu. Mais Jésus a dit, de deux dans un lit, un sera pris et l'autre laissé. Jésus est amour, mais je peux vous dire que sans la sanctification, nous ne verrons pas le Seigneur. Et les gens, ils veulent un évangile édulcoré, mélangé. Ils savent utiliser des versets de l'Écriture. C'est pour la liberté que Christ m'a franchi. Tout m'est permis, vous voyez ? Voilà, et on prend des versets, on les explique n'importe comment. Et c'est ça qui contribue à la confusion et à la séduction. Parce qu'on n'est pas séduit n'importe comment. Ève, elle a été séduite. Et c'est écrit dans la parole de Dieu que de la même manière que Ève a été séduite, les chrétiens seront séduits. La confusion, comment ? Par le refroidissement des cœurs. C'est écrit à cause de l'iniquité. On est dans Matthieu 24 ? Non, on est. Regardez dans Matthieu 24. Qu'est-ce qui est écrit ? Voilà comment la confusion vient. Vous savez, un cœur qui est froid, il est confus. Hein ? Voyez ? Matthieu 24, verset 12. Le refroidissement, ce n'est pas le refroidissement de quelques-uns. Qu'est-ce qui est écrit ? Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre. Pourquoi ? Parce que les chrétiens flirteront avec l'iniquité. L'iniquité, c'est le manque d'équité. Bon, ça, c'est sûr, c'est facile à trouver. Hein? Mais l'équité, c'est la droiture et c'est la justice. Voilà. À cause de l'iniquité, un manque de droiture. Oui, d'accord, Dieu a dit ça. Mais quand même, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas devenir des légalistes. On ne va pas devenir excessif. Mes frères et sœurs, à cause du manque de droiture, l'amour du plus grand nombre, se refroidira. Pourquoi ? Eh bien parce que les émotions, les sentiments, la sensualité, alors tout ça, le diable arrive à le compenser avec de l'excitation. Vous savez, dans les églises, il y a beaucoup d'excitation, mais ça ne veut pas dire que les cœurs sont bouillants pour Dieu. On peut avoir un cœur froid et être excité physiquement. Est-ce que vous comprenez que je vous dis ? Et ça laisse supposer que les cœurs sont bouillants parce qu'il y a beaucoup de bruit et beaucoup d'excitation. On peut dire, bon, qu'est-ce qu'ils sont bouillants ? Qu'est-ce qu'ils sont fervents ? Je suis désolé, c'est sentimental. Croyez-moi, mes frères et sœurs. Oui, la confusion, parce que les gens ne lisent pas la parole de Dieu. Et quand je gratte un peu dans certains entretiens, non pas pour faire un interrogatoire musclé, c'est pas ça qu'on doit faire, mais les gens ne lisent pas la parole de Dieu. Ou alors ils lisent tout le temps les deux ou trois psaumes qu'ils préfèrent, les petits textes qu'ils aiment bien. Il faut lire toute la parole de Dieu. Et les gens sont loin de se douter ce qui va arriver. Vous savez discerner le temps ? Ah, le temps, ça, il faut le savoir. Quel temps il va faire demain ? Mais moi, je peux vous dire qu'il est plus urgent de savoir quel est le temps spirituel. Et que le temps, il va se gâter, croyez-moi. Quand Jésus reviendra, beaucoup de chrétiens ne seront pas prêts. Beaucoup. C'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est écrit. La parabole des dix vierges, elle est là parce qu'il n'y a pas de vie de l'esprit. Les saintes vierges folles représentent des chrétiens qui attendent le maître et qui pourtant n'ont pas du tout de vie de l'esprit. Il y a ceux qui seront prêts, ils entreront dans la salle des noces et la porte sera fermé. Il y a dans l'église ceux qui sont prêts et ceux qui ne sont pas prêts. Dans cette parabole, ceux qui sont prêts côtoient ceux qui ne sont pas prêts. Oui ou non ? Voilà, c'est ça. Dans l'église d'aujourd'hui, il y a une telle confusion qu'il n'y a que Dieu qui voit. C'est pour ça qu'il a dit, hop, 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 c'est pas à vous de séparer le bon grain, de livrer, ne vous amêlez pas. À moins que, bien sûr, il y ait des cas de péché dans l'église flagrant qu'on doit mettre en discipline, ça c'est autre chose. Mais mes frères et sœurs, nous devons être toujours prêts. Vous le savez qu'il faut être toujours prêt, parce que notre vie ne nous appartient pas, et que nous pouvons mourir dans l'heure qui suit. Notre vie ne nous appartient pas. Qu'on soit à l'église, qu'on soit au travail, qu'on soit en train de dormir, qu'on soit ici, qu'on soit là, qu'on soit en train de se détendre, je ne sais pas, en train de faire quoi que ce soit en vacances, Dieu veut que nous soyons toujours prêts. Et là aussi, il y a une parole difficile dans la parabole des vierges. Là, Jésus va dire à ces folles, « Je ne vous connais pas. » Quel drame, quelle proportion, 5 sur 10. Si Jésus avait dit, il y en a une qui n'était pas prête sur les 10. Mais ça fait presque peur de voir que Jésus dit 5 sur 10. Vous savez que tout ce que Jésus a dit, c'est pesé. Vous le croyez? Est-ce que c'est important tout ce que Jésus a dit? Vous croyez que c'est au hasard qu'il a dit 5 sur 10? Moi, je crois que c'est prophétique. Moi, je le crois vraiment. Vous savez, voilà, il y en a 5 qui attendaient le maître, mais elles ne le connaissaient pas. Elles attendaient l'annonce, mais elles n'étaient pas prêtes. Combien de chrétiens attendent l'enlèvement de l'Église? Certains même supplient Dieu qu'ils reviennent, et pourtant ils ne sont pas prêts. Ça doit être un truc de fou, ça, dans la tête. Des gens qui disent, Seigneur, reviens, reviens chercher l'Église, reviens. Mais ils ne vivent pas dans la sainteté. Ils croient dans la promesse, mais ils ne sont pas prêts. Ce n'est pas parce qu'on croit dans les promesses de Dieu qu'on est prêt à le rencontrer. Ce n'est pas parce qu'on gravite avec des chrétiens qui sont prêts qu'on est prêt. Ce n'est pas parce qu'on a un peu d'huile qu'on est prêt. Mes frères et sœurs, le Seigneur, il nous enseigne qu'il ne faut pas avoir un petit peu d'huile dans la lampe, il faut être rempli du Saint-Esprit. Ce sont des choses sérieuses, mes frères et sœurs. Être prêt pour l'enlèvement de l'Église, c'est archi important. Oui, elles avaient un peu d'huile. Est-ce qu'elles en avaient un peu de l'huile? Oui, elles en avaient. Mais elles n'en avaient pas assez. Et plus la nuit s'épaissit, moi je crois qu'il faudrait veiller à ce qu'on ait encore plus de réserves d'huile dans notre lampe. Elles avaient Jésus pour sauveur, mais elles n'avaient pas Jésus pour Seigneur. Les saintes vierges folles représentent tous les chrétiens qui ont accepté Jésus comme sauveur, mais qui ne veulent absolument pas que Jésus règne dans leur vie. Elles attendaient le Seigneur, mais elles n'étaient pas prêtes. Et tout ça, c'est fait pour nous faire réfléchir d'une manière très sérieuse. Jésus a dit un jour à des gens qui étaient là, « Voici, je vous ai tout annoncé à l'avance. » On n'est pas prêt parce qu'on va à l'église le dimanche matin. Je questionnais une personne ces jours-ci, je lui demandais « Mais pourquoi elle allait à l'église ?» J'ai failli en pleurer. Mais ça serait intéressant pour la formation des pasteurs, je vous le dis, de faire un questionnaire dans toutes les églises et de demander aux gens, mais pourquoi allez-vous à l'église? Il y a de quoi s'inquiéter, croyez-moi. Nous sommes prêts, non pas parce que nous allons à l'église tous les dimanches, nous sommes prêts quand nous sommes en communion avec le Seigneur. Voilà quand est-ce que nous sommes prêts. Nous ne pouvons pas accepter d'une relation superficielle avec le Seigneur Jésus. Nous sommes prêts quand nous gardons notre vêtement propre. Vous connaissez, quand tout temps tes vêtements soient blancs. Je te conseille d'acheter des vêtements blancs afin que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Nous sommes prêts pour faire allusion à la parabole des talents, des vierges. Nous sommes prêts quand nous avons de l'huile dans nos vases. L'apôtre est formel. Si quelqu'un prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Et nous savons bien que c'est un combat de tous les instants. Oui ou non? C'est pas un combat? C'est un vrai combat. Mais nous pouvons le gagner et nous devons le gagner. Et ça doit être une grâce car les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Qu'est-ce que le diable veut? Le diable, il veut détruire. Vous le savez? Le diable, il veut détruire. Ce que le diable veut, c'est que le monde rentre dans l'église. C'est tout. Voilà, ce que le diable veut, c'est que les chrétiens deviennent mondains. C'est que les chrétiens utilisent les méthodes du monde. Je lisais là par rapport à la discussion qu'on a eue dimanche, à la prédication de dimanche, combien certains sont convaincus que si on fait comme le monde, on gagnera le monde. Si on fait comme le monde, c'est le monde qui gagnera l'Église. Voilà, c'est ça exactement qui se passera. Le Seigneur, il est formel. Pour être prêt, il faut vivre dans la sanctification. La parabole du festin des noces, vous la connaissez, c'est une parabole où Jésus invite tout le monde. Beaucoup, 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 beaucoup s'excusent et beaucoup acceptent. Mais au jour des noces, qu'est-ce qui se passe au festin des noces? Il y a quelqu'un qui avait accepté l'invitation, mais qui était venu avec ses habits à lui. Et on lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas revêtu l'habit de noce? Ça représente les chrétiens qui veulent entrer dans le royaume de Dieu avec leur façon à eux. L'habit des œuvres, par exemple. Les œuvres, c'est un habit. Voilà, moi, j'entrerai, si je fais le bien, j'entrerai. Mais on enseigne ça dans les églises. Si vous faites le bien, vous êtes sauvés. On n'est pas sauvé parce qu'on fait le bien, on est sauvé parce qu'on est passé par la repentance et par la conversion et qu'on a marché avec Jésus tout le long de sa vie. Après, bien sûr qu'on va faire le bien, mais ce n'est pas parce qu'on fait le bien qu'on est sauvé. On n'est pas sauvé par les œuvres. Et le Seigneur, il est formel pour entrer dans le royaume de Dieu et pour être prêt, il faut avoir revêtu les vêtements blancs de la sanctification. Il faut avoir revêtu le sang du Seigneur Jésus-Christ. Oui, la confusion. Quand Jésus reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand il viendra? Quand ça sera la fin? Qu'est-ce qu'il trouve dans les églises aujourd'hui? Est-ce qu'il trouve des réunions de prière qui sont vécues dans la foi? Est-ce que ce n'est pas ça que Dieu veut? Il faut prier avec foi. Oh, moi, je n'ose pas prier. Mes frères et sœurs, dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, il doit y avoir de la foi fervente, de la foi vivante. Vous êtes d'accord? Un chrétien, il doit prier. La maison du Seigneur, c'est une maison de prière. On ne doit pas avoir peur. On doit croire que la prière peut faire mouvoir le bras de Dieu. Vous le croyez que la prière, elle peut faire mouvoir le bras de Dieu? Est-ce que vraiment vous le croyez? Alors pourquoi tant de gens prient si peu? Pourquoi tant de gens prient avec crainte? Si la prière, elle est si puissante que ça. Mes frères et sœurs, vous savez que c'est, pour ainsi dire, le seul moyen de faire mouvoir le bras de Dieu, de prier avec foi. Et pourquoi cela, comment cela se fait-il qu'on annule les prières? Que les gens ne prient plus? Ils sont fatigués pour la prière. Mes frères et sœurs, nous devrions avoir honte de négliger les réunions de prière. Moi, je suis sûr que si l'Église redevient une maison de prière, nous verrons la gloire de Dieu. La prière vécue dans la sainteté, vécue dans l'obéissance. Et je m'adresse aux hommes. Les hommes, levez-vous! Levez-vous, ne soyez pas timides, ne soyez pas peureux. Levez-vous, soyez des hommes. C'est écrit dans la Bible. Est-ce que Dieu dit aux hommes, je veux que les hommes prient, soyez des hommes? Est-ce que c'est écrit? Oui, c'est écrit, parce que les hommes doivent se lever dans leur famille, dans leur maison, pour devenir des bénédictions, mes frères et sœurs. Et s'il y a de la confusion, c'est en partie à cause de ça également. La confusion parce que les gens ne savent pas discerner la parole de Dieu. C'est vrai que les prophéties, c'est parfois étonnant. D'un côté, il est écrit qu'il y aura de la famine. Est-ce que c'est écrit qu'il y aura de la famine? Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a écrit? Regardez avec moi, Luc 21. C'est écrit. Alors c'est paradoxe, bien sûr, nous, mais on le sait, c'est parce que le monde est mal géré, ça, mais ça, je ne pense pas que je vous apprenne quelque chose ce soir. Luc 21, 34. La confusion à cause de quoi? Eh bien, on va le voir. Quand on prend tous les textes où Dieu nous demande de prendre garde, vous avez l'enseignement de ce qui fait que les gens sont confus. Prenez garde, verset 34, à vous-même. De crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie. Deux choses qui mettent les chrétiens dans la confusion, les excès de la nourriture et les soucis de la vie. Et oui, c'est impressionnant. D'un côté, il y a des gens qui meurent de faim, et nous, on jette la nourriture. C'est vrai ou c'est pas vrai? Les excès. Et beaucoup de chrétiens, à cause des excès, voyez, on l'a lu, ne soyez pas, vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger. La nourriture, c'est une bénédiction? Est-ce que c'est une bénédiction? Mais bien sûr. Mais voyez, ça peut devenir un problème. Et c'est vrai que si on mange trop, eh bien, peut-être que le cœur, il est appesanti, on a moins envie de prier, on a moins envie de chercher Dieu. Oui ou non? Après un bon repas, vous avez envie de passer 2 heures dans la prière? Ou vous avez envie de faire la sieste? Est-ce que c'est bien de temps en temps de faire un bon repas? Mais bien sûr. Mais faisons attention que tous les jours ne soient pas l'occasion de nous, excusez-moi l'expression, de nous goinfrer. Soyons sobres, mes frères et sœurs. Faisons attention à la nourriture. Les gens sont dans la confusion à cause de cela. Oui, c'est comme ça. D'un côté, il y aura des famines. En Afrique, on meurt de faim. Et aux États-Unis, ils meurent parce qu'ils mangent trop. C'est pas vrai? Voilà la confusion. Les soucis de la vie. Pourquoi les soucis de la vie? Eh bien parce que les gens ils n'apprennent pas à obéir. Parce que Jésus il a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Voilà, et les soucis de la vie, voilà. La confusion, c'est ça. Oui, on n'entend pas les commandements ou les promesses. Parce que souvent, les commandements sont conjugués avec des promesses. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, commandement, et derrière, il y a une promesse, car lui-même prend soin de vous. Mais voyez, si on prenait le soin d'être au clair sur les commandements et sur les promesses, les soucis de la vie ne nous induiraient pas dans la confusion. Et ça, c'est un grand problème, ça. Les chrétiens qui continuent à se faire du souci, ça peut arriver qu'on ait des fois quelques minutes d'abattement. On le voit même dans les psaumes, un homme comme David a été parfois battu, mais après il réagissait vite. Non, je te louerai. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi t'as battu? Non, je te louerai. Si je résume le psaume, hein. Mes frères et sœurs, si vous ne lisez pas les commandements de l'Écriture, si vous ne connaissez pas les promesses de Dieu, vous serez dans la confusion. Et c'est ce que le diable, il veut, que les gens soient dans la confusion. Nous vivons des temps difficiles, vous ne trouvez pas? Et ça ne va pas faire en s'arrangeant. Vous le savez, ça ne va pas faire en s'arrangeant. Quand dans Thessaloniciens, il nous est dit, quand les hommes diront paix et sûreté, et le jour où les journaux télévisés diront, voilà, on a trouvé un accord de paix entre Israël et la Palestine, voilà, on risque plus rien, il est dit, une ruine soudaine, mais vous n'avez plus besoin de moi. Et les surprend, et ils n'échapperont pas. Et mes frères et sœurs, veillons à ces choses. Veillons à ces choses. Hein. Il faut que l'apostasie soit arrivée. C'est l'apôtre Paul qui le dit. L'apostasie, ça veut dire marcher à côté, loin du fondement. Et ça, alors écoutez, j'espère que vous me faites confiance. Mais je peux vous dire que l'Église et même nos assemblées, d'une manière générale, sont dans l'apostasie. On marche à côté. Il y a trop de mélanges. Un christianisme, on n'est pas contre le christianisme, mais on veut un christianisme à notre sauce. On veut un christianisme sans piété. Un christianisme où on ne prêche plus la repentance. Un christianisme où on ne prêche plus la consécration, plus l'engagement. Un pasteur, il peut divorcer, c'est pas grave, il peut continuer à prêcher, il faut être gentil envers lui. C'est ça l'apostasie. Vous entendez, mes frères et sœurs? Alors que quand même, il n'y a pas des critères, il n'y a pas indiqué qu'il faut être irréprochable à tous égards. L'apostasie, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne les églises. On abandonne Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne le culte, les réunions, la prière, les cantiques ou la Sainte-Cène. Non, on abandonne la vérité. Et dans les Thessaloniciens, quand il parle justement de l'apostasie, il dira qu'il y aura des séductions, même des miracles et tout, mais il n'y aura pas l'amour de la vérité. Les gens, ils veulent des manifestations, en veux-tu, en voilà, c'est formidable. Mais surtout pas, ne nous prêchez pas la repentance et la conversion, ne nous fatiguez pas avec ça. C'est ça l'apostasie. On veut bien d'un christianisme sans la sanctification. Car qu'est-ce que c'est qui fait la force de la piété? C'est la sanctification et la repentance. On n'a pas besoin de se repentir de temps en temps. Vous n'avez pas eu de mauvaises pensées aujourd'hui? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une mauvaise pensée? Seigneur, je te demande pardon. On a besoin. La piété, elle est véritable lorsqu'il y a de la sainteté et de la repentance. Mais on ne voudra pas la vérité. Lisez-le avec moi. Lisez-le dans 2 Thessaloniciens. On l'a souvent lu ici. Mais pour les nouveaux qui sont là ce soir, regardez comment c'est clair. Ça ne peut pas être plus clair. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. C'est ça. Il est parlé de l'apostasie. L'apostasie, alors 2 Thessaloniciens chapitre 2, voyez, vous savez c'est quand le dictateur mondial va émerger de la reconstruction de l'Empire romain, donc de l'Europe, que tout ça va se mettre en place, surtout. Et l'Église normalement ne verra pas l'Antichrist, mais l'esprit de l'Antichrist il est sur la terre par contre. Regardez. 2 Thessaloniciens 2, verset 4, 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Le problème, il est là. Et vous devez répondre à cette question, est-ce que vous voulez continuer à aimer la vérité? Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Le résultat est catastrophique. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Vous voyez, on veut des manifestations, on veut des miracles, mais on ne veut pas entendre parler de la vérité. Et il est dit qu'à cause de cela, ils s'attacheront à des esprits séducteurs. Les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Et croyez-moi, je suis bien placé pour le voir, et à très haut niveau, que dès qu'on parle de la saine doctrine, oui, mais enfin la doctrine, chacun la voit à sa façon. Non, il y a pas, on ne la voit pas à sa façon. La doctrine, on la voit en fonction de ce que Dieu dit. Ils ne supporteront pas la saine doctrine. Est-ce que vous aimez la saine doctrine? Oui, dans les derniers jours, il y aura des gens difficiles. Les gens seront irreligieux. Je le dis avec beaucoup de respect. On a quand même maintenant un président qui vit dans la fornication. Enfin, je ne sais pas comment vous le voyez. Je pense que la politique étrangère fera qu'il sera obligé de se marier. Mais il ne le fera pas par conviction, il le fera par intérêt politique. Mais tout ça, ça a été accepté. C'est pas grave, même les chrétiens ont accepté ça. C'est pas grave. Et ça cause aucun problème. Vous avez remarqué? Ça pose aucun problème. Et il y a des gens qui sont à fond là-dedans et ils ne se rendent pas compte que tout ça, ça détruit l'institution du mariage. Ça détruit la famille. Ça vient d'où ça? Ça vient de l'ennemi. Les gens seront irreligieux. Mes frères et sœurs, nous sommes en plein dedans. J'espère que vous en êtes pleinement conscients. Oui, les gens ne supporteront pas la saine doctrine, ils aimeront les fables. Ça sera insupportable. Et vous le voyez des fois avec des chrétiens. Moi, je le sais, parce qu'il y a des gens qui viennent, et au bout de 3 semaines, ils me disent, écoutez, c'est trop dur votre parole ici. Ils ne supportent pas la saine doctrine. Mes frères et sœurs, Dieu n'honorera, c'est écrit, que ceux qui honorent sa parole. Si vous n'honorez pas la doctrine, Dieu ne vous honorera pas. N'ayez jamais la démangeaison d'entendre des choses nouvelles. C'est ce qui se passe. Les gens, ils veulent entendre des choses nouvelles. Ils courent à tous les séminaires, à droite, à gauche, pour avoir des nouveaux trucs sur l'onction, sur la guérison, etc. Et je veux terminer avec ce verset dans Tite. C'est juste après, à Timothée, Tite. Dans Tite, c'est une question que je nous pose quand même à nous. Tite 1er, verset 16. Il parle de ces chrétiens qui n'ont que l'apparence de la piété. Et à quoi se reconnaît quelqu'un qui connaît Dieu? Parce que regardez, Tite 1, verset 16, ils font profession. Quand on va dans une église, quand on fait profession de connaître Dieu, les voisins qui vous voient rentrer dans l'église avec la Bible sous le bras, ils disent, tiens, c'est un chrétien. Vous voyez, un gars en jogging, tiens, un jogger. Vous voyez, un gars qui rentre avec la Bible sous le bras, c'est un chrétien. Mais à quoi on reconnaît un chrétien? Parce qu'un homme rentre dans la Bible avec une église? Il rentre dans une église avec une Bible, vous verrez quand vous prêcherez, vous rirez moins. Hein? Parce qu'un homme rentre dans une église avec une Bible, hein? Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. À quoi on reconnaît un véritable chrétien? Eh bien, il fait l'œuvre de Dieu. Il a à cœur l'œuvre de Dieu. Il respecte l'œuvre de Dieu. Il a des œuvres dans le sens où il prend possession. Non, ça, c'est pas bien. La Bible dit l'inverse. Tant pis, on se moquera de vous. Mais vous honorerez la parole et Dieu vous honorera. Vous savez, les dernières visites que j'ai eues m'ont montré combien il était important de dire et de redire ces choses. Quelles œuvres pratiquons-nous? Dans l'assemblée, par la grâce de Dieu, soyons honnêtes, on pratique des œuvres, on fait de bonnes choses pour autour de nous. Et vraiment, j'en suis heureux et j'en suis conscient. Mais c'est quand même quelque chose d'individuel. Le Seigneur peut dire à chacun, que t'importent les autres, toi, suis-moi. Ça ne veut pas dire les autres, tu t'en fiches. Ça veut dire, Dieu nous dit de toute façon, je prends soin des autres. Attention, que jamais nous disions les autres, on s'en fiche. Ça ne veut pas dire ça. Quand Jésus a dit ça à Pierre, ça veut dire, les autres, c'est mon affaire. Mais toi, suis-moi. Quelles sont les œuvres que tu fais? Est-ce que tu fais ce que Dieu te demande? Ou est-ce que tu es incapable d'aucune bonne œuvre et que tu justifies ta paresse, ton inactivité, ta négligence en disant « mais moi, je n'ai pas le temps ». Mais c'est bizarre combien tu as plein de temps pour faire tout un tas de choses. Quand tu passeras devant Dieu, il ne te faut pas avoir fait ce que le gars fait en enterrant le talent. « Seigneur, tu m'as donné une vie ». Quelqu'un un jour a dit « la vie, c'est comme un billet ». C'est comme un billet. Vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, mais vous pouvez l'utiliser qu'une fois. Et je trouve que c'est une belle image. Un billet de 50 euros. Si je vous donne un billet de 50 euros, non. Si vous me donnez tout à l'heure un billet de 50 euros, d'accord ? On va faire comme ça, chacun. Vous me donnez un billet, voilà. Et vous me dites, vous en faites ce que vous voulez. Je peux en faire ce que je veux de ce billet. Je peux le jeter, le perdre, ou je peux l'utiliser... Au moins le mettre à la banque. J'en ferai ce que je veux. Mais la vie, votre vie, vous dites, j'en fais ce que je veux. Oui, mais vous devriez chercher à la faire valoir. Ce soir, en venant, vous dites au Seigneur, moi je veux que tu me parles. Je veux être capable de faire les œuvres que tu veux que je fasse. Vous savez, ça va loin. Je vois que l'heure tourne. Mais quand Pierre dit, tiens, on va le prendre ce verset. Quand Pierre, regardez, c'est quand même grave, parce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui. 2 Pierre, chapitre 2. Ça fait quand même, enfin, vous savez, quand on est pasteur, on réfléchit à ces choses. Regardez, 2 Pierre, chapitre 2. Verset 1er. Voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Vous voyez, dans la Bible, il y a des avertissements. Ce soir, c'est une prédication d'avertissement. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que vos pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Et vous connaissez la suite. Hein. Ils veulent oublier. Il y aura parmi vous. Hein. C'est terrible. Il y aura parmi vous. Parmi vous, plusieurs fois. Parmi vous, il y aura des prophètes, des faux prophètes. Que Dieu nous garde. Et les églises, on n'écoute pas. On va croire n'importe qui. Vous aimez lire la parole de Dieu? Est-ce que vous aimez lire la Bible? Si vous aimez lire la Bible, si vous aimez veiller et prier, vous aurez la force. Vous avez entendu dans Osée, embouche la trompette et avertis mon peuple. L'ennemi fond comme un aigle sur la maison de l'Éternel. Pourquoi l'ennemi a-t-il pu fondre comme un aigle? Eh bien parce qu'on l'a laissé venir. Parce que la Bible dit que l'ennemi, eh bien si on lui résiste, il fuit. Oui ou non? Et nous n'avons pas, comme dit le psaume 78, nous n'avons pas tourné le dos au jour du combat. Nous devons affronter l'adversaire par la puissance du Saint-Esprit, par la prière, en veillant. Oui, nous devons combattre le bon combat. Mes frères et sœurs, le mardi soir, vous le savez, à 19h30, nous avons une réunion de prière. Ne venez pas que pour l'enseignement. Venez pour prier. Venez pour combattre le bon combat. Venez avec les frères et les sœurs. Priez pour les persécutés. Priez pour que l'apostasie ne s'installe pas dans les églises. Oui, l'ennemi, il va fondre comme un aigle sur la maison de Dieu. Et là, où on ne veillera pas, on se fera avoir. Mes frères et sœurs, ce sont des choses sérieuses. L'ennemi, il ne peut venir que si on lui ouvre la porte. L'ennemi, il ne peut venir que si on lui laisse l'avantage. Mais quand une église prie, quand une église veille, quand une église se lève, l'ennemi, il fuit. Résistez au diable et il fuira. Vous le croyez, mes frères et sœurs? Nous voulons... Dieu nous a placés dans cette église. Oui ou non? C'est Dieu qui vous a placés ici? En tout cas, moi je sais que c'est Dieu qui m'y a placé, en tant que chrétien. Et je sais que dans l'église où Dieu m'a placé, je veux qu'ensemble, parce que c'est la volonté de Dieu, l'ennemi il fuit. Et que les gens qui viennent, ils se repentent. Que les rétrogrades, ils reviennent à Jésus. Que les pécheurs, ils se tournent vers Dieu. Que les chrétiens soient de plus en plus sanctifiés. Voilà une église où l'ennemi recule. Les chrétiens ont de plus en plus de ferveur. Les chrétiens ont de plus en plus envie de faire l'œuvre de Dieu, les œuvres de Dieu. Les chrétiens, ils savent les choses. Ils discernent les choses spirituelles. Vous ne savez pas discerner le temps, a dit Jésus. Les chrétiens de la Odyssée, ce sont les chrétiens de la fin des temps. Ils ne savent pas.
ils ne savaient pas, ils ne savaient rien, ils ne savaient même pas dans quel état ils étaient, ils croyaient que, et Dieu va leur dire, mais tu ne sais pas. C'est des chrétiens qui ne discernent rien. Ils vont voir quelque chose, ils vont regarder un programme politique, ils ne vont même pas être capables de regarder que ce sont des choses qui vont attirer le jugement de Dieu. Vous voyez, ça vous prouve que les gens ne discernent rien. Je dis ça après, je n'ai pas dit ça avant. Je le dis esprit pour vous montrer, pour influencer personne. Mais mes frères et sœurs, quand on n'est pas capable de discerner, il faut se remettre à genoux et dire, Seigneur, ouvre mes yeux, Seigneur. On peut prier pour que Dieu ouvre nos yeux, bien sûr. Mes frères et sœurs, l'ennemi, il va fondre sur la maison de Dieu. Et il ne pourra pas entrer que là où les gens seront sérieux, sains, vrais. Alors au niveau individuel, quelle bénédiction! Si vous vivez dans l'obéissance, le diable il ne vous touchera pas. C'est écrit ou c'est pas écrit? C'est écrit. Il est dit que ceux qui marchent avec Dieu, le malin ne les touche pas. Une église qui marche avec Dieu, le malin ne la touche pas. C'est pour ça que tous nous devons nous réveiller. Tous nous devons nous lever. Tous nous devons prendre au sérieux l'église. Ne dites pas, Seigneur, c'est bien, que notre pasteur soit sérieux, que notre pasteur ne tombe pas dans l'apostasie, que notre pasteur soit appliqué dans ses prédications. Seigneur, nous t'offrons la consécration de Monsieur Gault. Offrez-lui la vôtre aussi. Vous allez voir que ça sera plus rapide, le réveil. C'est bien d'offrir la consécration du pasteur. Vous le faites? Vous le faites, merci. Mais moi, je vous conseille de donner la vôtre. Parce que ça serait quand même triste que vous ayez offert toute votre vie la consécration du pasteur qui vous aura enseigné et que vous ne vous soyez pas consacré vous-même. Parce que ce n'est pas pour ça que vous allez être prêt. Le salut, c'est quelque chose d'individuel. De deux dans un lit, un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, de deux hommes qui seront à l'usine, de deux femmes qui seront dans ce bureau derrière leur ordinateur, une sera prise, l'autre laissée. Ce n'est pas que Dieu plouffe. Hein. J'en prends un ici, j'en prends un là, j'en prends un autre ici, j'en prends un autre là. Non, mais Dieu connaît très bien ceux qui sont prêts. Et les relations humaines, c'est une chose, les relations sociales, c'est une chose, les relations spirituelles, c'est une chose, ce n'est pas parce qu'on travaille ensemble, qu'on dort ensemble, qu'on est ensemble, que tout va bien. Je crois qu'il faut absolument que nous soyons très sérieux avec la sanctification. Oui, Dieu est amour. Son amour ressort dans tous les livres de l'Écriture. Son amour éternel, son amour qui ne nous traite pas selon nos iniquités. Enfin, si je commence à attaquer sur l'amour de Dieu, on ne s'en sort pas. On ne peut pas s'en sortir quand on parle de l'amour de Dieu. Parce qu'il est éternel, il est infini. Mais Dieu est saint. Et Dieu va venir chercher une église sainte, sans rides. Sans rides, ça veut dire qu'il ne vieillit pas spirituellement. Qu'il se rajeunit toujours spirituellement. On ferme les yeux quelques instants. Soyons soucieux de notre âme. Soyez soucieux de prendre ces choses au sérieux. Oui, l'ennemi, il va fondre sur la maison de Dieu, mais là où on combattra, il ne pourra pas agir. Est-ce que vous en êtes conscients, mes frères et sœurs? Et la trompette, la prédication, ne doit pas être confuse. Si la prédication elle est confuse, personne ne combattra. Et si ce soir votre cœur est ouvert, vous ne pouvez qu'être encouragé, chez vous et dans la maison de Dieu, à combattre le bon combat. Oui, si la trompette est claire, le combat sera clair. Et nous gagnerons quand Jésus reviendra. Et nous serons prêts. Seigneur Jésus, tu nous as laissé ta parole. Oui, nous savons distinguer le temps. Même si on n'en a plus besoin, à cause de la météo qu'on nous donne, c'est vrai que nous sommes capables de discerner les choses géographiques. Mais Seigneur, ce que nous voudrions, c'est surtout discerner les signes des temps. Et nous savons, Seigneur, que tu vas revenir nous chercher. Et tu vois tous les croyants qui sont comme ces vierges folles. Nous te demandons, Seigneur, d'avoir pitié de l'Église endormie, pitié de l'Église tiède, pitié de l'Église, qui a enterré le talent. Nous te supplions, Seigneur, de ne pas faire de nous des gens qui font profession d'être chrétiens, et qui passe à côté des œuvres que tu as préparées. Seigneur, que dans cette assemblée, le bon combat soit mené, que véritablement dans cette assemblée, les ténèbres reculent, que les hommes soient délivrés, que les pécheurs soient touchés, que les rétrogrades soient accueillis et libérés par la puissance du Saint-Esprit. Tu vois tous les chrétiens de Toulouse, oui Seigneur, qui ne sont pas prêts. Nous te demandons de leur parler. Seigneur, tu as le pouvoir de leur parler cette nuit. Parle-leur sur leur couche. Montre-leur l'état de leur âme. Nous nous accordons, Seigneur, pour que tu les délivres de la tiédeur, pour que tu les délivres de cet éloignement. Tu les aimes, Seigneur, oui. Tu as prouvé ton amour et tu as une parole, tu as un secours, tu as une bénédiction, une guérison pour chaque rétrograde. Seigneur, nous te prions même d'en mettre plusieurs sur notre chemin et donne-nous les mots qu'il faut pour pouvoir les aider, les entourer, les accueillir, les ramener à la croix. Seigneur, oui, nous le croyons que tu viens bientôt. Tiens-nous prêts, Seigneur. Tiens-nous prêts pour la gloire et l'honneur de ton nom. Merci, Seigneur Jésus. Amen.